padoudé doum dé, padoudé. Roupadoudé doum dé. Roupadoudé doum dé, padoudé. Roupadoudé doum dé.
Bonjour, c'est le premier rendez-vous de Retoucher Terre, premier podcast. Chaque mois, vous allez avoir un rendez-vous autour des envies de s'installer, de travailler, d'avoir des projets, de non pas s'isoler, mais trouver une nouvelle communauté au sein des campagnes. Aujourd'hui, pour ce premier podcast, comment se prépare un projet de vie à la campagne avec nous? Et alors, vous allez avoir un lien avec la page Facebook, Retoucher Terre. Vous pouvez nous écrire à retoucherterremaintenant@gmail.com. Avec nous pour cette première et pour ce premier podcast, Sylvie Le Calvez. Bonjour Sylvie.
Bonjour Philippe.
Sylvie, directrice de publication du magazine Village. Guillemette Loyer. Bonjour Guillemette.
Bonjour Philippe.
Guillemette, vous êtes animatrice territoriale pour le syndicat mixte du Beaujolais. Vous nous raconterez un tout petit peu votre expérience parce qu'elle est intéressante. Vous êtes arrivée dans ce beau Beaujolais en 2016. Avec nous, Jean-Yves Pinault, Jean-Yves, directeur des Localos. Salut Jean-Yves.
Bonjour Philippe.
Jean-Yves qui connaît très très bien le terrain après plus de 10 ans d'exercice, non 20 ans même, du collectif Ville-Campagne, aujourd'hui les Localos, avec des engagements, des stratégies de développement et d'installation à la campagne, avec l'aide aussi des communautés, des collectivités territoriales. Et puis votre serviteur Philippe Bertrand, de Carnet de campagne de France Inter. Alors, je sais que le thème est très large en ouverture, mais on va essayer de préciser les choses. Depuis plus de 10 ans, il y a des sondages qui spécifient que les Français, majoritairement, adhèrent à la campagne. C'est un lieu de vie idéal. Après, il y a ceux qui passent à l'action, ceux qui ne passent pas, qui sont en attente. Depuis le confinement, il s'est passé une chose assez remarquable, c'est-à-dire que ce mouvement d'intérêt, d'adhésion à la campagne s'est confirmé. Quitter la ville, quitter les loyers lourds, la promiscuité, les difficultés de déplacement, les difficultés aussi d'engagement dans un espace naturel. Et tout est possible aujourd'hui, après ce confinement, déconfinement, peut-être que ça reviendra, on ne sait pas. En tout cas, tous les chiffres confirment aujourd'hui cette volonté de s'installer à la campagne. On a un exemple pendant cet été, 73% des Français souhaitent passer leurs vacances en France. Contrairement à 43% l'année dernière, c'est-à-dire qu'il y a d'un seul coup une dimension exponentielle d'adhésion à la France, mais que le confinement a voulu aussi. Alors, on va vous donner des exemples concrets, mais pour lancer cette problématique, cette question, je fais appel à Guillemette, chargée de mission développement territorial du syndicat mixte du Beaujolais. Je disais, Guillemette, vous êtes arrivée en 2016, quittant Paris.
Oui, c'est ça. Ça fait déjà 4 ans. J'ai pas vu le temps passer. On vit bien à la campagne et c'est un parcours qui s'est évidemment, une installation qui s'est pas faite en un jour et qui a pris finalement plusieurs années entre le moment où on y a pensé et le moment où on est arrivé. Et j'ai envie de dire qu'on continue encore de s'installer aujourd'hui.
Les questions qui se posent souvent, c'est « moi je viens de la ville, est-ce que je vais être accepté à la campagne ?» Comme s'il y avait deux mondes séparés.
Alors pour moi, les mondes ne sont pas séparés, hein, ils sont vraiment connectés l'un avec l'autre. Moi je suis née à Paris, j'ai grandi à Paris, mais mes grands-parents étaient sartois, on y allait un week-end par mois, voilà, à la campagne, on la connaissait. Je crois que en fait l'acceptation, elle est aussi, est-ce qu'on accepte nous-mêmes de changer des habitudes et puis d'aller vers les autres. Alors c'est vrai que nous, on a été très bien accueillis parce que notre propriétaire nous a tout de suite mis dans la boucle des associations locales et puis j'avais moi-même aussi un métier qui faisait que j'allais au-devant des gens puisque j'animais un espace de coworking. Donc on est bien accueilli quand on a envie de se sentir accueilli.
Ouais. Il faut quand même avoir un projet en poche et un projet bien avancé, entrer en contact avec une population et peut-être aussi les décideurs locaux, ça c'est impératif.
Oui, je crois que c'est ça. En fait, il faut ignorer personne. Il faut pas avoir peur d'en parler. de son projet, mais que ce soit dans la phase amont et une fois qu'on est sur place, parce que finalement le projet il se construit avec les rencontres qu'on va faire. Et oui, en fait, il y a la population locale, mais il y a aussi les élus, il y a aussi les techniciens, il y a tout ce qui gravite de la vie tout court, mais comme on aurait quand même aussi finalement en ville à une autre échelle, quoi.
Faut-il avoir un projet obligatoirement profitable au développement local?
En tout cas, je pense qu'il faut un projet qui réponde aux besoins. Alors, est-ce que c'est exclusivement les besoins locaux? Nous, dans notre cas, c'était effectivement les besoins locaux, mais ça peut être aussi effectivement un besoin. Enfin, par exemple, les gens qui viennent s'installer et qui font de la prestation de services pour les entreprises à distance, c'est pas forcément un projet profitable directement au territoire, mais en fait, c'est un projet qui va profiter puisque les gens qui viennent s'installer là, travailler à distance, ils vont consommer localement, ils vont vivre, ils vont utiliser l'école, ils vont, voilà, et donc ils vont faire vivre. Donc, quelque part, je pense qu'à partir du moment où on vit sur le territoire, le projet devient profitable, mais vivre au sens plein.
Quand on vit en famille, Vous aviez un projet. Votre mari en avait-il un? Est-ce qu'il a pu s'insérer facilement?
Alors oui, on est arrivé chacun avec un projet. Les enfants, à vrai dire, on leur a pas trop demandé leur avis. Hein. Eux, ils se sont embarqués avec nous. À l'époque, voilà, aujourd'hui, ils ont 11 et 9 ans, donc ils étaient encore petits. On leur a peu parlé du projet finalement. Nous, on était voilà un peu à fond dans ce qu'on voulait faire. Mon mari, il avait un projet. Il était ingénieur automobile et il était en train de se reconvertir pour être artisan vélo. Mais son projet était beaucoup moins abouti que le mien. Aujourd'hui, il est bien artisan vélo. Il a ouvert sa boutique dans le village. Et il est aussi conducteur de car scolaire, puisque c'était un métier qui manquait localement.
Et ça, c'était nécessaire en complément de son travail d'artisan.
Oui, tout à fait, parce qu'au début, le projet, c'était d'ouvrir un atelier vélo, mais plutôt en ville. Et on sait que ça marche très, très bien. Voilà. Mais le modèle économique en milieu rural, il savait aussi que ce serait beaucoup plus difficile, plus long, et que pour en vivre et être pleinement heureux de faire ça, il allait falloir faire preuve un peu d'agilité. Et c'est justement en étant au contact des gens localement qu'il a entendu parler de ce besoin de conducteurs de cars scolaires, qui sont des... En fait, c'est un travail à mi-temps, et qui est payé la moitié du SMIC. Donc, c'est vrai qu'on ne pense pas forcément au premier abord.
Oui. Jean-Yves Pinault, c'est un exemple emblématique, l'expérience de Guillemette.
Certainement. En tout cas, oui. Dans le parcours, dans la volonté, dans le projet de vie, dans le projet professionnel, dans ses rencontres avec les acteurs, avec le territoire, oui, c'est emblématique. En tout cas, c'est un parcours, on va dire, qui s'est bien déroulé. Donc, il y a des parcours certainement qui se déroulent un petit peu plus difficilement, mais on a affaire à des gens qui avaient su se projeter, qui avaient su construire en fait en amont. Le parcours, même si une fois sur place, il y a toujours des surprises qui ne sont pas toujours très, très évidentes à affronter. Mais en tout cas, oui, on est sur quelque chose qui est plutôt, quand on fait un peu de théorie, comme disaient des proches, un jour j'aimerais aller habiter en théorie parce que ça se passe bien. Mais voilà, on est face à quelque chose qui est plutôt un parcours construit, quoi.
Aujourd'hui, tout est possible, en fait. Oui. Mais quand on va avoir des questions précises de personnes qui nous ont laissé leur message. C'est avant même de se préparer, effectivement, il faut avoir un projet, il faut savoir vers quelle destination se projeter. Et la question récurrente, c'est est-ce qu'il y a des destinations qui sont meilleures que d'autres? Parce qu'on fait une sorte de palmarès, comme ça, des régions les plus accueillantes face aux régions les moins accueillantes.
Ouais, j'aime pas trop ce truc-là, mais je vais y revenir dans 2 secondes, Philippe, si vous me permettez. Mais parce que ce que vous dites, on a via cette structure qui s'appelait le collectif Ville Campagne, on a pu travailler et être au contact avec ces gens qu'on appelle les migrants. aujourd'hui on les appelle même les exodeurs, vous imaginez, eh bien, je crois que c'est le plus important, c'est de les écouter, de les rencontrer, puis de voir comment ça se passe. Et en fait, on s'aperçoit que quand ça se passe bien, comme avec Guimet et son témoignage, on s'aperçoit qu'en fait, les gens construisent leur parcours autour de trois piliers. Le premier pilier, c'est le projet de vie. C'est-à-dire que ces personnes qui vivent dans les grandes villes, dans les métropoles, se disent à un moment, on n'a plus envie de vivre dans les métropoles, on a envie de faire autre chose et de vivre autre chose. Donc, il y a ce projet de vie sur lequel, en fait, les gens doivent se mettre au clair. Et puis, ce projet de vie, bah, forcément, il intègre le projet professionnel. Le projet professionnel, ça va être le moyen, en fait, bah, de partir de ces métropoles et puis d'exercer soit le même métier s'il nous plaît, mais dans d'autres conditions, soit de créer une autre activité ou soit de bosser ailleurs dans d'autres cadres de vie. Donc, le projet professionnel. Et puis, ces deux éléments-là mis ensemble, on a la capacité à choisir le territoire qui va nous accueillir pour le projet de vie et le projet professionnel. Mais, si vous voulez, enfin, tout ça n'est pas très, très mécanique, hein. Tant il y a des campagnes différentes, on peut trouver des campagnes au bord de la mer, on peut trouver des campagnes au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, on peut avoir des montagnes, on peut avoir des petites montagnes, on peut avoir des grandes montagnes, bref, des campagnes qui sont près des villes. Bon, voilà, tout ça, en fait, est très, très éclectique, très disparate et va être en fonction vraiment du ressenti et de la volonté du couple, de la personne qui vont réfléchir. Voilà. Et puis, bah, là-dessus, on reste dans des parcours singuliers, humains. Donc, il y a l'effet coup de cœur, il y a l'effet rencontre du territoire ou des gens sur les territoires pendant les vacances, pendant des déplacements professionnels. Bah, tout ça est vraiment très complexe. Oui. Donc, justement, on s'aperçoit que pour pas être noyé, bah, on essaye de donner, on essaye de construire, on essaye de mettre à la disposition de ces gens des outils. Mais ça ne reste que des outils. Alors, avec le numérique aujourd'hui, il y a plein de plateformes. On y reviendra pour aider les gens à commencer à chercher même de loin. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est on réfléchit d'abord à ce que l'on vit, ce que l'on ne veut plus vivre, ce que l'on peut vivre et qu'on aimerait vivre, et tout ça s'enchaîne avec, au final, le choix du territoire. Il y a, et pour répondre à votre question, Philippe, très rapidement, il y a effectivement en France, depuis une trentaine d'années, des territoires ruraux qui se bougent les fesses pour construire, en fait, de la place et accueillir des nouvelles populations.
Jean-Yves, vous en dites trop. Il y a des territoires ruraux, c'est-à-dire, j'en reviens à ma question, il y a des territoires qui sont plus porteurs que d'autres pour accueillir de nouveaux habitants et de nouvelles activités.
Oui, oui, mais là où on retrouve les principes de réalité de la vie et qui est une complexité sans nom, mais c'est ça qui est intéressant, enfin en tout cas pour certains, c'est de dire que parmi les territoires qui se bougent, qui veulent accueillir des nouvelles familles, qui veulent accueillir des nouvelles populations, on peut s'apercevoir que ce n'est pas complètement tout le temps égal. On peut,
lesquels?
Alors bon, bah écoutez, au lendemain des municipales, c'est un peu trop tôt. On va avoir certainement des territoires qui vont commencer à se dire ah mais on est en train de tomber. On a envie de se lancer dans la transition écologique. On a besoin d'énergie. On a besoin de brasser les populations, d'accueillir des compétences, des gens qui ont envie, etc. Des jeunes, des vieux, des anciens, des retraités. On va se mettre à construire des politiques d'accueil. Voilà. Le mot est lâché. En France, vous avez des territoires qui ont décidé de construire des politiques d'accueil. Et vous en trouvez particulièrement dans le Massif central. Mais pas uniquement au niveau du Massif central.
Donc, Massif central, voilà. Alors, il y a déjà une destination, il faut y travailler. Sylvie Le Calvez, à travers les nombreuses années consacrées aux gens de la ruralité, néo-ruraux ou natifs, est-ce que les expériences, les portraits innombrables que vous avez présentés dans le magazine relèvent d'expériences très, très personnelles et individuelles, ou plus d'expériences collectives de personnes qui se sont engagées dans un groupement existant ou qui ont constitué un groupement pour imaginer leur vie de façon collective?
J'y reviendrai, Philippe, tout à l'heure dans ma petite chronique, en vous racontant ces histoires d'installer. Mais oui, ce qu'on voit vraiment, c'est que de plus en plus, ce sont des dynamiques de groupe qui sont recherchées. On ne veut plus forcément monter son projet tout seul. L'époque petite maison dans la prairie, L'espèce de mythe où on va vivre tout seul avec sa petite famille au milieu des champs, c'est de moins en moins vrai. On voit de plus en plus de jeunes trentenaires qui partent à plusieurs ou des personnes qui veulent monter des projets collectifs, même pour reprendre une épicerie, et en même temps ils font un atelier four à pain, et en même temps ils font des spectacles culturels. Mais plus ça va, plus les projets sont complexes et se font à plusieurs.
Ouais. Alors je vais vous soumettre des questions. Il y a celle de Jocelyne. Alors c'est une question générale, mais c'est tellement cliché que c'est bien de la soumettre. Je suis parisienne, mais vais-je me faire accepter par la province ? Et elle sous-entend qu'il y a une réputation en province, que celle-ci est hostile aux étrangers. Alors c'est évidemment un bruit qui court, mais Guillemette, Jean-Yves, Sylvie, est-ce que vous pouvez rassurer Jocelyne ?
Oui, moi j'ai envie de la rassurer. Il y a forcément des gens qui sont pas prêts à accueillir les autres, mais ça c'est vrai partout. Je crois que en fait il faut aussi être très humble quand on arrive. Moi je sais que j'ai beaucoup observé, je suis allée à la rencontre des gens, j'ai beaucoup discuté, et c'est comme ça qu'on peu à peu on s'intègre, et je crois qu'il faut aussi faire tomber, et ça cette année ça nous apprend aussi beaucoup ça, c'est l'impatience. Ce serait peut-être ce qui ferait qu'on serait mal accueilli, c'est que on veut tout de suite, et ici ça marche pas en fait. Il faut prendre du temps, aller prendre le café au bar du village, il faut discuter, voilà, c'est pour moi c'est la clé de l'intégration, et oui, il y a des gens qui sont moins accueillants que d'autres, voilà, mais
il faut faire l'expérience d'abord, c'est-à-dire aller sur le terrain, rencontrer les autochtones, comme on disait jadis, ce qu'on peut encore dire, prendre la température, mais c'est pas en deux jours qu'on le fait, et c'est pas en deux jours qu'on va avoir une véritable estimation de la qualité de vie et des possibilités d'installation.
Non, pas du tout. Bah, nous, par exemple, je suis arrivée au mois d'avril, donc il y a 4 ans, et mon mari et les enfants ne m'ont rejoint qu'à la fin de l'été, et ils sont venus pendant l'été passer un petit peu de temps, voilà, et tous ensemble, on a validé qu'on se sentait bien, parce qu'en effet, comme vous le disiez, Philippe, un week-end où il fait très beau et qu'on arrive de la région parisienne, on va trouver ça absolument génial et très accueillant. Et puis, quand on vit au quotidien et que à 6 heures, il n'y a plus de pain chaud, ça peut être, on peut se sentir mal accueilli, donc oui, il faut du temps. Ouais.
Jean-Yves et Sylvie, un mot sur cette a priori d'hostilité de la campagne aux étrangers, de la province, comme le dit Jocelyne dans sa question.
Eh bien, Guillemette a dit plein de choses vraiment essentielles. Après, moi, ce que je peux rajouter, c'est que effectivement, on est à la fois, il faut être conscient quand on arrive dans un village, dans une petite ville, que finalement personne ne nous attend. C'est-à-dire que certains ont pu, parisiens ou d'autres, penser qu'ils étaient attendus comme les messies, et que ça leur donnait finalement une mission qu'ils s'étaient auto-donnée, quoi. Hein. Donc il y a vraiment cette question d'humilité, il y a vraiment cette question de temps. Et ce que vous dites, Philippe, est très important. C'est au maximum de l'amont de l'installation, du choix du territoire, essayer de créer un maximum de familiarité dans toutes les conditions possibles, y compris les moins bonnes, y compris quand il pleut, comme disait Guillemette, y compris, bon, voilà. Et puis ensuite, c'est vraiment un parcours qui se fait à deux, et donc, c'est-à-dire en fait les populations qui y vivent et puis les gens qui vont arriver. Puis là vraiment, on voit bien que on est dans des caractères un peu psychologiques, sociologiques. Faire de la place à des figures d'étrangers entre guillemets, ça ne tombe pas sous le sens. Hélas, parce que effectivement, on a bien des territoires ruraux dits très isolés qui auraient besoin d'accueillir, mais en fait, on se retrouve avec des populations qui ont peur, qui ont perdu confiance. Et ça se travaille. Voilà, on appelle ça d'ailleurs la culture de l'accueil, une manière en fait de s'ouvrir et à la fois en accueillant et à la fois pour les accueillis, bien d'être aussi patient, comme disait très joliment Guillemette, et de comprendre qu'il se joue aussi d'autres cultures, d'autres rapports qui sont intéressants. En gros, il faut être curieux, quoi. Curieux des autres.
C'est ce que vous faites avec les localos.
On accompagne. Alors, Guillemette est bien placé pour en parler. On accompagne quelques territoires. Le Beaujolais vert a été l'un des premiers territoires en France et en Europe à travailler cette culture de l'accueil via justement une mobilisation des habitants de villages, des élus, mais aussi des associations, mais aussi des entrepreneurs, mais aussi des personnes lambda, on va dire, qui ont décidé de se regrouper au sein du village pour accueillir, pour construire des livrets d'accueil, pour inviter les gens à un dépôt d'accueil, pour présenter le village, faire visiter le village, etc. Et on voit que ça fait tache d'huile. Et ça, c'est quelque chose qui nous semble être monté en puissance aujourd'hui. Et quand on voit la question des migrants, pardonnez-moi, enfin les migrants étrangers, on a aussi là devant nous des enjeux qui sont humains et des enjeux essentiels.
Sylvie, un mot sur ce clivage?
Pas grand-chose à rajouter par rapport à ce qu'ont dit Jean-Yves et Guillemette. Je crois que vraiment, c'est un couple entre le territoire, les habitants de ce territoire et la personne. Si on a choisi de partir et que, voilà, que ça nous porte et qu'on a envie et qu'on y va en se disant les autres, les habitants ici sont sympas, qu'on part avec cet a priori positif, et si dans l'autre sens, les habitants du village se disent on a envie d'accueillir, et qu'on y va en toute humilité, j'aimais bien ce terme sur lequel je reviendrai aussi tout à l'heure, il n'y a pas trop de raisons que ça ne marche pas. Il y aura même une vraie solidarité s'il y a des difficultés. Si par contre c'est une mobilité subie parce qu'on n'a plus du tout les moyens d'habiter en ville, parce que c'est obligatoire, parce qu'on est électrosensible mais qu'on ne sait pas trop où aller et que c'est compliqué et qu'on subit des choses, c'est comme si on a l'impression de subir les nouveaux habitants et qu'on ne voit pas toute la portée que ça peut représenter de les accueillir, ça devient beaucoup plus difficile. Donc c'est vraiment une question d'envie partagée. Il n'y a pas de territoire qui serait plus sympa, moins sympa. Ils ont chacun leur histoire, chacun leur culture. Mais il faut vraiment partir et accueillir avec envie.
Exemple concret aussi à travers une question et un témoignage. C'est Marie qui souhaite s'installer avec son compagnon et leurs deux enfants, qui sont deux adolescents, précise-t-elle, d'ici l'été 2021 dans le bassin de Mazamet. On est dans le Tarn, 81, ou dans la Haute-Vienne. Le souhait, c'est d'acheter une maison, un terrain, de développer, c'est le cas de son compagnon, puisqu'il a déjà cette activité, développer une production de maraîchage bio, et elle, en parallèle, un gîte d'accueil, voire d'animation. Elle est assistante médico-sociale depuis 10 ans, et elle pose la question, qui peut m'aider dans cette recherche d'emploi et dans cette recherche de foncier? Alors, je pose la question à tous les trois.
Bah, je veux bien me lancer peut-être, mais voilà. Mais on aura aussi à la fois le regard de Sylvie et puis le regard de la professionnelle qui est Guillemette. En fait, ça rejoint la continuité de ce qu'on a évoqué jusqu'alors. L'un des conseils très forts que l'on peut donner à toutes ces personnes qui veulent partir des métropoles, s'installer, construire leur vie à la campagne ou sur ou dans des petites villes, c'est au moment où ils choisissent le lieu, comme c'est le cas avec ces personnes qui posent ces questions-là, c'est de trouver le poisson pilote, la personne ou le service qui va vous permettre de vous accompagner dans vos différents projets. Et ça, c'est essentiel parce que ça va être des médiateurs, ça va être des personnes qui vont vous permettre à la fois de vous donner des renseignements sur votre projet professionnel, sur des opportunités d'emploi, sur des opportunités de reprise, sur des opportunités de trouver du foncier, mais également vont pouvoir vous accompagner sur votre projet de vie, trouver un logement, avoir du temps même pour pouvoir construire votre projet, savoir où sont les services, enfin tout ce qui fait l'importance et la qualité de vie au quotidien. Ça, j'en profite pour dire que c'est justement l'un des points forts de ces territoires qui souhaitent accueillir. C'est ce qu'on appelle, c'est un des piliers de la politique d'accueil. Voilà. Alors, pour les trouver, ces personnes-là, la première chose à faire, en fait, c'est de regarder sur Internet le numéro de téléphone de la commune ou de la communauté de communes et puis d'exposer, en fait, son projet. Et là, vous allez avoir une interlocutrice qui va vous dire, ben voilà, nous, on a un agent de développement, on a un chargé de mission, on a un élu qui va vous orienter vers des personnes qui vont être des professionnels, qui vont pouvoir vous accompagner dans en fait vos recherches, qu'elles soient d'ailleurs professionnelles, encore une fois, ou projet de vie.
Guillemette, Loyer, c'est comme l'explique Jean-Yves, ça paraît très très clair et très simple. Il suffit de prendre le numéro de téléphone de la Comcom, d'appeler et d'exposer son cas, et on est mis en relation avec un chargé de mission, entre autres vous, pour élaborer, essayer de comprendre, élaborer, peaufiner et ensuite accueillir le candidat.
Oui, c'est vrai que ça paraît assez fluide, assez facile. En fait, nous, quand on accueille des personnes qui nous contactent avec leur projet, qui peut être un projet juste une idée ou un projet très précis, on se définit vraiment comme les facilitateurs de territoire. En fait, nous, on a une connaissance, effectivement, de toutes les personnes qui vont, à un moment ou à un autre, interagir dans le projet. Après, c'est vrai que c'est pas facile de les flécher. Nous, on a cette chance-là dans le Beaujolais Vert. C'est un dispositif qui est en place depuis une année. Donc, en fait, on nous trouve facilement et nous, on peut effectivement donner des coordonnées. Mais si on ne trouvait pas cette info parce qu'on va dans une petite mairie d'un petit village, d'un petit territoire et ça n'a rien de diminuant, le premier contact pour moi, ce serait d'aller à la mairie, effectivement, ou d'appeler la mairie et de dire bonjour, on a le projet de venir s'installer. Comment est-ce que vous pouvez nous aider? Parce qu'en fait, à la mairie, eh bien, il y a les élus et puis il y a aussi plein de bénévoles autour qui sont des citoyens. Et voilà, c'est une première porte à franchir.
Sauf que là, on resserre à nouveau le regard. Si on choisit un département, une région, on ne va pas d'emblée appeler une communauté de communes particulières ou une commune. On va se dire, est-ce qu'il faut passer par la CCI? Est-ce qu'il faut passer éventuellement par la Chambre régionale d'économie sociale et solidaire? Est-ce qu'il faut trouver un numéro d'élu chargé du développement économique du territoire départemental, voire région? C'est pire encore, surtout vu les grandes régions aujourd'hui. C'est un peu un casse-tête pour quelqu'un qui ne s'y connaît pas.
Moi, j'ai envie de dire, ouvrez toutes les portes, c'est-à-dire, faut y aller. Il y a forcément des portes qui seront fermées. Voilà. Après, dans le parcours d'installation, en tout cas, moi, dans les porteurs de projets que j'ai accompagnés là, sur ces deux dernières années, très souvent, on n'est pas aussi large, c'est-à-dire, on n'entend pas des gens nous dire « je voudrais m'installer en région Auvergne-Rhône-Alpes ». C'est plutôt j'ai une maison de famille dans tel coin, finalement au lieu d'y venir que pour les vacances je voudrais installer mon projet, ou bien on a eu le coup de cœur pour cette région, ça fait trois fois qu'on vient en vacances, voilà, on va s'installer. En fait, on est rarement un projet très large. Je trouve que l'entonnoir se fait assez facilement, et puis dès qu'on ne trouve pas la porte d'entrée de soi-même, on va aller trouver la petite porte qui nous permet de générer des contacts. Nous, on est entrés dans le Beaujolais, on n'a pas de famille ici, hein, titre perso, c'est la publicité dans Village, il y a 5 ans, un salon des entrepreneurs à Paris. Donc voilà, comme quoi...
Comme quoi il faut passer par Paris. Ça, c'est inévitable. Sylvie, il y a beaucoup d'arguments avancés par les personnes qui veulent s'installer. C'est la qualité de la couverture numérique, les services d'éducation, les services de santé, les commerces, tous les réseaux de proximité qui peuvent permettre d'être autonome à la campagne. Vous le vérifiez, vous, à travers votre expérience, Sylvie?
Notre expérience personnelle du magazine implanté dans un village de 200 habitants.
Les deux.
Les deux, d'accord.
C'est vrai que l'histoire du magazine, c'est quand même pas rien. Quoi.
Non, on était un peu fous quand même. C'était bien avant Internet, il y a presque 30 ans, avec nos grandes disquettes et installées au fond d'un champ où il fallait mettre les bottes pour aller traverser. Sylvie, et c'est pas...
Sylvie, ce serait possible aujourd'hui?
Ce serait beaucoup plus facile qu'hier.
Ah oui.
Enfin, imaginez qu'il fallait aller, envoyer ses disquettes, faire des fois des kilomètres pour aller rejoindre un maquettiste et tout, qui n'avait pas Internet et qu'on a réussi à le faire et que ça a été possible. Mais tous les titres de presse étaient dans les villes. Enfin, il n'y en avait pas qui étaient au fin fond du champ. Il fallait vraiment être un peu fêlé. On allait même porter notre bois parce qu'on n'avait même pas les moyens de se payer un local, chauffé. On avait un poêle bois au milieu. Bon, il faudrait retrouver des photos d'archives. Sur le son, ça se voit pas. Mais oui, donc je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile et il n'y a pas besoin de la 5G pour ça, puisque je vous dis, on a même pu le faire avec à l'époque des disquettes. Oui. Je pense qu'effectivement, avec une connexion de bonne qualité, de la fibre, tant mieux pour des métiers comme les nôtres, mais il y a plein de métiers où il n'y a même pas besoin d'atteindre ce stade. Il faut quand même une bonne connexion parce que quand des enfants doivent prendre des cours à distance ou même faire des jeux vidéo, ne l'excluons pas pour des ados, et c'est bien d'avoir une bonne connexion. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est les services de soins où il y a un vrai, vrai, vrai déficit dans beaucoup de campagnes. Là, je vois bien, nous, on est en Normandie. Parfois, même pour voir un généraliste, il faut faire 100 km ou 80 pour en trouver un disponible dans les délais. C'est très difficile pour certains territoires. Ça devrait changer à l'avenir, on l'espère en tout cas. Donc, il y a des services publics qui sont manquants. Il y a des services aussi qui peuvent manquer dans certains villages, mais là ce qui est intéressant c'est qu'on peut les construire. Je vois l'exemple du mari de Guillemette qui a repris le transport scolaire, c'est super parce qu'effectivement il peut y avoir carrément des besoins non pourvus, des vraies offres d'emploi et des services qu'on peut assurer, non pas forcément sous forme de services publics mais d'associations d'habitants qui contribuent à monter une crèche alternative, etc. Donc l'avantage du monde rural, c'est que, ou des campagnes, c'est quand même presque tout est possible. Je ne sais plus qui disait ça tout à l'heure en début, mais c'est vraiment ça, c'est que aujourd'hui, il y a c'est que il y a de l'espace, bien sûr, il y a des choses à faire. Il faut se retrousser les manches, parce que les maisons de centre-bourg, elles ne sont pas forcément aux normes de ce qu'on souhaite aujourd'hui. Pourtant, c'est là qu'il faut habiter. On ne va pas continuer à prendre des terres alentour pour construire des maisons neuves sans arrêt, même autour des villages. Donc, il y a du travail, mais il y a des possibilités à des coûts accessibles. Quand même, souvent, ça reste très accessible pour beaucoup de territoires. Je ne parle pas forcément du Luberon, mais beaucoup de territoires, ça reste des coûts accessibles avec de l'espace. Quand on veut monter une activité artisanale autour de la valorisation du bois ou autre, il y a de l'espace pour monter un atelier. On n'est pas à des coûts exorbitants du mètre carré. Et donc, pour tenter une expérience de chef d'entreprise, je trouve ça beaucoup plus facile qu'en milieu urbain aujourd'hui, et ça peut être un très bon tremplin pour une activité, qu'elle soit autour n'importe quoi, de l'habillement, des cosmétiques, de l'artisanat du bois ou de ce qu'on veut.
Sylvie, vous parlez de chef d'entreprise, justement, ce qui ressort aussi c'est des images de stéréotypes, mais les stéréotypes cachent aussi une réalité. Le citadin, et je ne parle pas du parisien, parce que c'est vulgaire, il n'y a pas que Paris qui bouge aujourd'hui, qui se déplace, il y a les habitants d'autres agglomérations, évidemment, c'est avoir de l'argent, avoir un projet qui tourne très souvent autour des mêmes choses, de l'accueil, pas nécessairement de production de biens, pas nécessairement un travail d'insertion dans un groupement ou travail de groupe et de collectif. Maraîchage bio, ça revient régulièrement. J'ai l'impression que les compteurs sont un peu bloqués sur ce type d'activité.
Oui.
Les uns et les autres, vous partagez ce point de vue. Et comment peut-on expliquer aux personnes qui nous suivent qu'il y a bien d'autres ouvertures et bien d'autres besoins auxquels on peut répondre quand on s'installe à la campagne? Guillemette, Jean-Yves, Sylvie.
C'est vrai ce que vous dites, Philippe, et je voyais tout le monde qui hochait la tête. C'est que oui, en effet, on a une recrudescence, on est beaucoup contacté sur les projets de maraîchage. Il y a un engouement, mais je pense qu'il y a d'abord un engouement personnel de retrouver une alimentation de qualité. Tout le monde ne peut pas en faire un projet viable, etc. Moi, ce que j'incite beaucoup à faire dans la réflexion du projet, c'est d'essayer de réfléchir à un projet. Effectivement, je crois que je le disais aussi au début, c'est quel est le besoin du territoire? C'est-à-dire que, au lieu de vouloir absolument implanter un projet comme on l'a imaginé sur le papier, avec son business plan et puis ce qu'on a vu ailleurs dans une émission ou dans un magazine, c'est de se dire « Ok, moi j'ai ce projet-là, mais qu'est-ce qui m'anime vraiment ?» Moi, je sais que, par exemple, mon mari et moi, ce qui nous animait, c'était de remettre du sens dans notre travail, mais on n'avait pas tout imaginé sur le travail, et mon mari, il n'avait pas imaginé devenir un jour conducteur de car scolaire et de faire une formation pendant 6 mois pour le faire. Mais voilà, il y avait ce besoin et finalement, on a répondu au besoin parce que ce qui était plus fort, c'était le projet, en fait, de redonner du sens au quotidien. Donc, je crois qu'en fait, c'est l'expérience, c'est venir vivre là et se rendre compte, effectivement, de comment c'est.
Jean-Yves, le cliché bobo argenté qui vient ouvrir son site d'accueil de gîte ou de chambre d'hôte.
Ouais, on est tous victimes du marketing, quel qu'il soit et dans quel sens que ce soit. Mais je crois j'aimerais faire trois remarques rapides. La première, c'est que pour tout ce qui va concerner les aides à la recherche, les aides à la formation, etc., on mettra des ressources sur le blog et on donnera des indications précises. La deuxième remarque, Philippe, c'est que la première information très importante à dire et à communiquer à nos auditeurs, s'il y en a, je plaisante, c'est que en fait, on manque dans les territoires ruraux, on a des métiers sous tension. Voilà. On manque de bras, on manque de têtes et on manque de bras. Et donc, il y a du boulot, il y a de l'emploi disponible au niveau du Massif central, au niveau de toutes les principales régions.
Toutes les activités confondues, Jean-Yves.
Toutes les activités confondues, voilà. Qu'il s'agisse en fait d'artisans, de boulangers, de médecins, d'infirmiers, de services à la personne, mais aussi de chaudronniers, mais aussi de maçons, mais aussi, voilà, on a des métiers sous tension, mais c'en est même dramatique. On voit bien qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui sont installées dans les territoires ruraux, qui veulent faire une boutique pour parce qu'il manque, ils n'arrivent pas ni à fixer des personnes ni à recruter. Donc il y a du boulot. On est dans un pays où on n'a pas encore compris que pour les services de l'emploi, en tout cas, la question de la mobilité professionnelle, elle était complètement liée à la question de la mobilité résidentielle. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, on se retrouvera dans la situation que l'on a, avec des territoires qui dépérissent, qui ont pourtant du boulot et qui n'arrivent pas à trouver des employés, et puis des régions surconcentrées où finalement il y a des entreprises, mais il y a du chômage. Enfin bref, je ferme cette parenthèse. Je crois qu'il faut le dire parce que ça donne aussi la pêche et l'envie à des personnes qui sont des points invisibles de nos grands médias. C'est-à-dire que, hormis effectivement ce que vous dites, des bobos, enfin, je déteste cette expression, mais des cadres, les CSP+, qui ont les moyens d'investir sur leur progrès sur leur projet de migration et de mobilité, oui, il y a de la porte, il y a de la place et il y a du besoin pour tout le monde, quoi. Y compris pour les ouvriers, voilà, et y compris pour les migrants qui viennent d'autres pays en guerre, entre autres. Donc ça, c'est le deuxième point. Et la troisième, c'est que tout simplement, mesdames et messieurs, tout simplement, on a une société à construire. Voilà, une société plus résiliente, et que cette société à construire, elle va avoir besoin d'énergie, de bras, de nouveaux métiers, d'anciens nouveaux métiers, de nouveaux savoir-faire, de nouvelles compétences. Et je pense qu'il y a aujourd'hui, et tant mieux, pas encore assez nombreux, mais la vague monte, si vous voulez, des territoires, des gens, des communautés, des organisations qui sont en train d'en prendre conscience. Et je peux vous assurer qu'effectivement, ça laisse de l'espoir. Oui, la question de la société résiliente, elle est prometteuse, y compris en termes d'activité, y compris en termes d'emploi et y compris en termes de cadre et de qualité de vie.
Sylvie, parfois on se perd dans les propositions de plateformes, de réseaux. Je vais en citer quelques exemples, et qui sont tous aussi intéressants les uns que les autres. Par exemple, il y a un réseau, le RENETA, c'est le réseau national des espaces tests, où on va sous-peser votre projet, vous proposer un espace pour voir si votre projet est viable, et ensuite vous aider à trouver un lieu d'activité. Et il y en a d'innombrables. Sauf qu'ils sont tellement nombreux qu'on s'y perd. Est-ce qu'il y a des références, des sites, des réseaux conseils que l'on peut justement proposer aux personnes qui nous suivent?
Oui, il y en a. Je propose qu'effectivement, on les mette sur la page Facebook de Retoucher Terre. Et je pense que le plus dur n'est pas, surtout avec Internet aujourd'hui, de trouver les réseaux. Si on fait des recherches, si on se fait aider par l'agent de développement dont on parlait, etc., si on ne connaît pas, très vite, il faut aller à la rencontre. Moi, c'est autour de ça que je vais d'ailleurs un peu imaginer la petite chronique là, de notre fin de podcast, parce que effectivement, c'est pas ce qui est prioritaire. Ce qui est prioritaire, c'est vraiment se poser la question de pourquoi je me sens fait, d'aller rencontrer des territoires et de répondre en même temps à ces besoins des territoires. Et après, les réseaux, ça se fait tout seul. Il y a plein de choses qui existent, presque trop. C'est effectivement une vraie fourmilière de réseaux. Savoir les identifier, finalement, les animateurs comme Guillemette, ils les connaissent bien, ils sont là pour ça. Ils peuvent dire, ben là, il y a besoin d'un petit peu de terre pour tester son activité, pour faire du petit fruit rouge et de la confiture. Ils savent qu'effectivement, on peut faire appel aux espaces tests agricoles et qu'il y a Renata. Donc, je pense qu'il ne faut pas aller se noyer en faisant, entre guillemets, du benchmark, comme on dit, d'essayer de répertorier tout ce qui existe, parce que ce serait sans fond. Ce serait sans fond. On pourrait passer sa vie devant son ordinateur et ne jamais franchir le cap d'aller partir sur un territoire rural. Je pense qu'il faut y aller. Il faut y aller l'hiver, il faut y aller en famille, il faut y aller les week-ends, aller rencontrer des gens, aller voir des acteurs, aller voir ses amis qui habitent là-bas, aller voir des voisins et se dire, bon, c'est bien, je m'y sens bien, j'en ai envie, et de continuer à investiguer sur place, parce que sinon, on va se perdre dans l'ensemble des réseaux qui sont fort utiles, qui sont même indispensables, qui ont leurs propres compétences, mais qui ne sont que des outils au service de la vie.
Et Sylvie, donc en conclusion, des exemples de parcours.
Ah oui, une petite chronique qu'on va retrouver à chaque fois. Alors, c'est dur de choisir des parcours dans autant de parcours depuis 30 ans d'existence du magazine Village. Alors, pardon pour tous ceux que les centaines que je ne cite pas, mais voilà, un petit itinéraire à travers cette thématique large d'aujourd'hui du podcast. Donc, qu'attendent les territoires, hein, c'est ce que nous demandait Christelle dans son courriel. Eh bien, peut-être faut-il poser la question aux intéressés, ou plutôt écouter ceux qui y vivent. C'est ce qu'a fait Igor quand il a décidé de quitter son poste au ministère des Affaires étrangères et de s'installer à 30 ans dans le bocage normand, là où il ne connaissait personne, absolument personne. Il souhaitait juste être utile, sentir les effets de ses actions, apporter ses compétences, trouver du sens à sa vie, en finir avec les missions entre deux avions. Alors, il s'est rendu à la recyclerie du coin, demandé s'ils avaient besoin d'un coup de main. Et après avoir déplacé des meubles ou du carrelage quelque temps, certains membres de l'association se sont aperçus qu'ils avaient des compétences bien utiles pour assurer le développement de la structure et lui donner un nouveau souffle. Finance, pilotage de projet. Là, il est aujourd'hui président de l'association Les Fourmis Vertes, une des plus belles ressourceries de Normandie. Depuis son arrivée, il a pris des centaines de rendez-vous avec des élus, des animateurs du territoire, des représentants du monde associatif ou économique, pour écouter les battements du cœur des villages, connaître les forces, les fragilités, les difficultés rencontrées. Il a peu à peu mis ses compétences d'animation et d'études au service du local. Avec trois amis emportés dans sa dynamique et venus de Paris s'installer avec lui, ils sont originaires de province, hein. Paris c'était une escale pour eux. Il a décidé de monter une société de conseil avec 4 emplois créés à la clé. Et conscient que d'autres trentenaires comme lui voulaient franchir le pas, il a ouvert un espace de co-living. Pardon pour l'anglicisme qui me sera encore reproché. Disons un espace de vie partagé dans une grande bâtisse louée à un particulier. Celle-ci accueille pendant un séjour d'une semaine, voire plus, en immersion, ceux qui veulent découvrir la vie en milieu rural, monter un projet collectif ou au moins s'implanter dans un lieu où ils peuvent avoir un réseau et ne pas être seuls pour démarrer. Ce lieu s'appelle El Capitan, c'est une fourmilière dans un village où la population était plutôt vieillissante. En moins de 2 ans depuis l'ouverture de ce lieu, certains comme Aline, Hélène, Adrien, Alex et d'autres se sont désormais installés dans le bocage alors que rien, absolument rien, ne les y prédisposait. Pour comprendre les besoins, ne faut-il donc pas être juste à l'écoute du monde, tisser sa toile entre un lieu et ce que nous savons faire ou ce dont nous avons envie ? Idem pour trouver un emploi, une maison, du foncier, c'est en allant se faire connaître auprès des maires, des animateurs des collectivités, des commerçants, des artisans, des associations, des notaires, la liste est longue, que l'on trouvera le plus facilement l'opportunité rêvée. Tout le monde se connaît ou presque, c'est la force des territoires ruraux, peu densément peuplés. Évidemment, pour ceux qui recherchent l'anonymat, mieux vaut oublier la campagne un certain temps. Dans le domaine du soin, un travail où souhaite s'investir Marie, qui nous a également écrit sur retoucheterremaintenant@gmail.com, les associations d'aide à la personne manquent de bras, mais tout peut être imaginé. À l'image d'Aurélie en Dordogne, socio-esthéticienne pour la Ligue contre le cancer, elle apporte des soins de bien-être aux personnes malades, à l'hôpital et à domicile, dans des campagnes périgourdines. Ancienne esthéticienne en institut, Aurélie a choisi cette voie pour aider les personnes en difficulté. Aujourd'hui, elle est l'une des 1300 socio-esthéticiennes formées en France. À la Ligue contre le cancer, depuis 3 ans, elle est en CDI, avec un contrat de 4 jours par semaine qui lui convient parfaitement bien. Pour ceux qui cherchent du foncier, et on en a parlé hein, déjà pendant ce podcast, pour une activité agricole, il y a bien sûr hein, des acteurs institutionnels qui seront cités à la fin, tels la SAFER ou les terres de lien, mais aussi des espaces tests agricoles. On citait le réseau Renata qui peuvent permettre d'expérimenter son activité en maraîchage, très à la mode, trop peut-être, en production de fruits rouges ou en petits élevages. Mais même pour trouver un bout de terrain, on peut innover en presqu'île de Ruise, Morbihan. Je vois que vous suivez. Les terres non, vont.
Tu posais la question à Jean-Yves, en fait.
C'est ça. Les terres vont à l'agrandissement des fermes existantes ou sont conservées par les particuliers dans l'espoir qu'elles deviennent un jour constructibles et qu'on se ferait un petit peu d'argent. En mai 2017, des porteurs de projets qui voulaient vraiment vivre là ont décidé d'unir leurs efforts. Le groupe a reçu le soutien d'agriculteurs en activité, parmi lesquels Julien, maraîcher bio, Denis, éleveur bio de moutons et de chèvres de race locale. Ensemble, ils ont relevé le défi, réhabiliter des serres occupées pendant 40 ans par un pépiniériste en créant une association, la Pépitaire, basée sur l'entraide et la solidarité. Inaugurée en 2017, la Pépitaire a pu démarrer grâce au travail de nombreux bénévoles et 76 donateurs. 12 petites entreprises se partagent actuellement le site. Certaines sont là depuis le début, d'autres sont arrivées en cours de route. À l'arrière du bâtiment flotte une odeur alléchante. Elle sort de l'atelier Quignasam, où Sam fabrique des quignanam bio qu'il vend sur les marchés. Le jeune pâtissier, des quignaman, spécialité bretonne, le quignaman. Et là, le Quignasam fait ses quignanam bio qu'il vend sur les marchés. Le jeune pâtissier a quitté une zone artisanale pour venir ici. La Pépitaire a aussi hébergé deux chocolatières qui sont aujourd'hui installées près de Vannes. Igor, Aline, Hélène, Aurélie, ce ne sont que quelques parcours parmi des milliers et des milliers d'autres, tous différents, car nous le sommes tous avec nos envies et nos forces. Ils ont changé de vie et ils ont changé celle du village qui souhaitait les accueillir, car une famille qui arrive sur un territoire avec humilité, une famille qui rénove sa maison, qui met ses enfants dans l'école, qui va faire des courses localement, qui participe à la vie culturelle, qui respecte l'environnement, ça change toute la physionomie d'un lieu et son devenir. Et si demain, c'était vous ?
Merci,
voilà Sylvie. Ce petit panorama.
Merci, qui donne envie en vous écoutant.
Oui, ah, moi, surtout d'aller en Espagne à Ruise.
il manque jamais le bon mot, ce Jean-Yves. Merci Guillemette, merci Jean-Yves, merci Sylvie.
Philippe.
Merci Philippe.
Merci à tous.
Merci à vous.
Au podcast pour le premier lundi du mois d'août. Donc là, c'est confirmé par Sylvie et Jean-Yves. Jusqu'au 23 juin, vous pouvez poser vos questions, apporter vos témoignages en tant que télétravailleur ou télétravailleuse. On dirait Georges Marchais, télétravailleur et télétravailleuse.
Jusqu'au 23 juillet ?
23 juillet, oui, je dis 23 juin. Jusqu'au 23 juillet. Vous pouvez les poser directement sur la page Facebook de Retoucher Terre, ou donc, je rappelle l'adresse, retoucherterremaintenant@gmail.com. Prochain podcast consacré à une réalité aussi que le Covid, le vilain Covid-19 a mis en avant, c'est le télétravail. Merci, bel été à vous et à dans un mois.
Merci, à bientôt.
Merci.